d'abord à vous dire tout le plaisir que j'ai dans cette magnifique école que j'ai connue autrefois rue des Saints-Pères, qui s'est largement développée sur ce magnifique campus. Deuxièmement, vous dire un grand bravo. Vous venez de terminer un premier cycle de votre vie. Vous avez travaillé dur et vous avez réussi. Vous avez réussi, c'est une étape, c'est évidemment pas la fin de l'histoire. Vous commencez une nouvelle tranche et c'est cette seconde tranche de votre vie qui vous amènera à votre vie professionnelle. Alors, les écoles ont cette lourde responsabilité en 3 ou 4 ans de transformer des objets grossiers et bruts que vous êtes en entrant en objets raffinés qui auront beaucoup de valeur. Après un petit circuit qui va durer 3-4 ans, voire plus. Vous rentrez dans ce long processus humain de la recherche de la compréhension du monde et de la transmission. Vous voyez, vous faites partie de ces privilégiés qui ont la possibilité de bénéficier d'une transmission de gens qui ont travaillé avant eux, et ce processus d'étude et de transmission, il est à la base du développement de l'humanité. Alors, il se fait dans des secteurs variés, selon les spécialités, mais il répond à une demande de l'homme, depuis qu'on a des traces de ce qu'il écrit, où l'homme veut comprendre le monde qui l'entoure, il fait de la recherche. Alors ça s'appelait peut-être pas comme ça, du temps des Grecs ou des Hébreux. Il fait de la recherche et il transmet. Il transmet et petit à petit on bâtit de la connaissance. Et quand vous regardez dans les écrits, puisque les seules traces qui nous restent sont des écrits, eh bien on voit que le processus scientifique, il remonte aussi loin qu'on a des traces écrites. L'électricité est probablement le domaine où il y a eu beaucoup de travaux très tôt, parce qu'il y a eu des manifestations d'électricité du temps des Hébreux en Égypte, du temps des Égyptiens. Vous savez que l'ambre, cette pierre semi-précieuse naturelle, quand on la frotte, elle a la propriété d'attirer à distance des objets. Et donc, imaginez la perplexité des gens qui, il y a 2 ou 3 000 ans, étaient capables de soulever un objet sans le toucher, uniquement en approchant un morceau d'ambre frotté. Tout le monde savait, on peut soulever un objet, on le prend, on le porte, on le pose sur une table, il est tenu. Et là, on voyait un phénomène surnaturel, où on était capable de soulever des objets sans les toucher. Et vous voyez, voilà, un des nombreux exemples de ces sollicitations de l'esprit humain. Pourquoi, comment ? Les champs électriques, évidemment, n'étaient pas connus à l'époque, mais des modèles ont commencé à être construits. Et les modèles qu'on a aujourd'hui, ce ne sont que l'aboutissement de travaux qui ont plusieurs milliers d'années. Et ça, on va le retrouver dans plein de domaines, en optique évidemment, pourquoi le ciel est bleu ? Quel est l'enfant qui ne s'est pas posé la question ? Pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? Est-ce qu'un être supérieur l'a peint ? Et pourquoi est-ce qu'il a choisi cette couleur ? Oui. Toutes questions, voilà des questions auxquelles aujourd'hui on a des réponses. Il y a chaque jour de nouvelles questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et donc vous arrivez dans une période où, contrairement à ce qu'on lit parfois, où on va dire « aïe, tout a été découvert », eh bien c'est strictement le contraire. On a de nouveaux outils chaque jour qui vont permettre d'imaginer demain de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés. Vous arrivez à un moment où votre imagination va pouvoir s'exprimer pleinement, à condition bien sûr d'utiliser cette chance que vous avez d'acquérir des connaissances. Vous allez bénéficier pendant 3-4 ans d'un transfert, d'une transmission de choses qui se sont accumulées depuis des millénaires, même pas des siècles, des millénaires. Vous allez les absorber profitez-en un maximum. C'est une période formidable de votre vie où vous n'avez pas de responsabilité autre dans l'ensemble. Vous pouvez vous consacrer, bien sûr, la vie c'est la vie, vous allez avoir envie de vous amuser, c'est normal, mais profitez un maximum de tout ce qui va vous être transmis parce que c'est une richesse que vous allez acquérir. Et vous voyez, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas une femme ou un mari avec 15 enfants à la maison, tous les soirs vous devez vous occuper de tout ce monde. Non, vous êtes libre, vous êtes dans cette période libre où vous pouvez tout faire. Voilà, voilà un peu mon préambule. Alors, vous allez voir ces quelques années, qu'allez-vous faire plus tard ? Et je vais vous donner des pistes basées sur, évidemment, des expériences vécues. Au fond, après avoir fait ce cycle, il y a des choses qui vont vous plaire, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Et c'est normal, c'est vrai dans tous les domaines. Donc, quelle va être votre vie ? C'est totalement impossible à prédire aujourd'hui et très peu d'entre vous, probablement, ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire. Peut-être serez-vous désireux de continuer ce processus de compréhension et vous ferez un peu de recherche. Alors, peut-être vous voudrez entrer très rapidement dans le monde industriel et avec les diplômes que vous allez avoir, ça ne posera aucun problème. Peut-être aurez-vous envie de tenter d'autres aventures et en particulier de créer votre propre entreprise. Et c'est un petit peu sur ce thème que je vais aller plus en profondeur. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, la France a de très belles grandes entreprises. Elle est très bien placée au niveau mondial dans ce domaine. Par contre, elle est très mauvaise, n'ayons pas peur des mots, dans le domaine de la création d'entreprises, en particulier technologiques. Or, les emplois de demain... Les emplois de demain, ce ne seront pas les grands groupes. Les grands groupes, d'abord, ils optimisent en permanence, donc ils ne grandissent pas. Quand ils grandissent, ils le font dans des pays à main-d'œuvre bon marché ou parce qu'ils ont des marchés dans ces pays. Donc ça peut être parce que c'est bon marché ou parce que simplement ils veulent se mettre à côté de leurs clients. Autrement dit, la croissance de l'emploi en France, elle ne sera pas due dans les années qui viennent aux grands groupes. Et ça, c'est une constatation, la tendance est plutôt à la baisse. Donc, où va être l'emploi ? Il va y avoir les services, bien sûr. La France a d'excellents restaurants, d'excellents hôtels. Il ne faut pas se résigner à ce que la France soit simplement un pays de tourisme où on mange bien, ça c'est vrai, incontestable, on boit bien. Avec modération, bien sûr, surtout pour vous. Bref, c'est un pays où il fait très bon vivre, mais doit-on se résigner à dire « bon, bah, c'est comme ça, d'autres pays vont prendre le leadership industriel dans les services, dans les matériaux, dans les technologies ?» La réponse est non. On a de très bons centres de recherche, on a des gens qui ont une formation excellente. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de création ? Alors, les raisons sont multiples. D'abord, en France, on aime bien les grandes structures, on aime bien la grande organisation. Créer une start-up, créer une entreprise, par définition, c'est se mettre hors du système. Parce que si vous refaites dans une start-up ce que fait un grand groupe, vous n'avez aucune chance. Il est installé, il a ses clients, il a ses process industriels. Ça va être extrêmement difficile. Donc pour réussir, il vous faut une idée. Il vous faut quelque chose que les autres n'ont pas eu. Alors, on ne crée pas une start-up. Pour créer une start-up, on crée une start-up parce qu'on a envie et qu'on a une idée. On a une idée dont on pense, parfois à tort, qu'on est le premier à l'avoir eue. Mais ça, c'est pas grave. Si on pense à chaque fois, on s'auto-censure, on ne fait jamais rien. Et vous voyez que ça conduit à un autre élément que je vous décrirai plus en détail. Il faut accepter de faire des erreurs. Dans la vie, on fait des erreurs. C'est comme ça. C'est dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Bon. Donc, il ne faut pas se dire « je ne ferai pas quelque chose parce que je risque d'échouer ». Il faut oser. Il faut oser. Quand vous tentez une aventure, vous n'êtes pas sûr de gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne tentez pas l'aventure, vous êtes sûr de ne pas gagner. Et donc, vous voyez qu'il faut accepter le risque. Et il faut, petit à petit, transmettre cette idée que le risque doit être un concept acceptable et que l'échec ne doit pas être une tare irrémédiable. En Californie, dans les pays où la high-tech se développe bien, ben les gens font des erreurs, ils ratent, et ils recommencent, et ils réussissent. Ce n'est pas parce qu'on a raté une fois qu'on est fini. Il faut absolument lutter contre ça. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Vous avez envie de créer une start-up, vous avez une idée. Alors, comment vous allez faire ? Premièrement, pensez équipe. C'est extrêmement difficile de faire quelque chose seul. Pourquoi ? Parce que chacun de nous a des compétences dans des domaines et des lacunes dans d'autres. C'est comme ça. On n'est pas bon dans tous les domaines. Et donc, quand vous tentez une aventure, qui est l'aventure de la création d'une entreprise, vous allez avoir besoin d'un mélange de cultures. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune chercheur, j'avais observé au laboratoire un phénomène très bizarre qui était contraire à toutes les lois de la physique. Et donc j'étais évidemment extrêmement excité. Au début, j'ai cru que je faisais une faute de manipulation, donc j'ai cherché à comprendre. Je me suis obstiné. J'avais une étudiante à qui j'avais donné en stage à réaliser ce qu'on appelait un transducteur ultrasonore. C'était un truc ultra simple. Dans les appareils photo de l'époque, on utilisait ça pour mesurer la distance de la cible, si je peux dire. Et elle devait réaliser ça. Puis le premier soir, elle vient. Elle me dit, j'ai rien vu. Je me dis, bon, d'accord, elle apprend. Elle vient le deuxième soir. Elle me dit, j'ai toujours rien vu. Bon, dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas tiré le gros lot. Le troisième jour, elle revient, elle me dit, je vois toujours pas de signal. Bon, je me dis, je vais vous montrer. Vous allez voir comment on sort le signal du bruit. Je descends dans le laboratoire. À l'époque, on utilisait ce qu'on appelait des oscilloscopes. Maintenant, souvent, les ordinateurs font la même chose. Et puis, on voit sur l'écran du bruit, puis je lui dis, vous voyez, pour sortir le signal du bruit, vous réglez, vous tâtonnez dans les réglages, puis à un moment, vous allez voir dans le bruit le signal, et à ce moment, c'est facile, vous l'optimisez. Je commence à jouer avec les boutons, et je ne vois rien. Et je sens petit à petit qu'elle est contente. C'est bizarre. Et donc, on cherche, je ne vois rien. Bon, je lui dis, on va passer la nuit ensemble pour travailler, je précise. Il n'y a pas de mauvaise interprétation. On passe une partie de la nuit ensemble, on ne voit rien. Bon, je lui dis, je reviens demain. Demain, on passe toute la journée, on ne voit rien. Le surlendemain, on ne voit rien. Je lui dis, c'est incompréhensible. Les équations sont d'une simplicité extrême. Il y a un truc bizarre. Un soir, on est fatigué, assis sur nos tabourets de laboratoire, et puis je lui dis, bon, éteignez tout, on va recommencer demain. Et par hasard, elle éteint une alimentation haute tension avant d'éteindre l'oscilloscope. Et à l'instant où elle éteint cet appareil, on voit le signal qu'on cherche depuis des semaines apparaître. Alors j'ai réaction... Je lui dis, mais votre montage, quand vous croyez l'éteindre, vous l'allumez. Quand vous croyez l'allumer, vous l'éteignez. Bon, je pense qu'elle se dit, il a complètement pété les plombs, là. Il n'aurait pas dû travailler comme ça. Parce qu'il y a des voyants qui montrent que l'appareil est allumé, tout ça. Je lui dis, vérifiez, elle vérifie. Évidemment, quand elle pense éteindre, elle éteint. Quand elle pense allumer, elle allume. Mais ça fait rien. On voyait du signal. Et à partir de là, donc, on a travaillé intensément, on a compris pourquoi ça ne respectait pas les lois de la physique en apparence. Bien entendu, ça les respectait. Et il y avait un matériau dans notre montage qui prenait des propriétés électriques particulières. Et on a compris qu'il se polarisait. Vous avez peut-être vu en électricité qu'on sait polariser des aimants et on sait polariser des isolants. Le matériau se polarisait, puis ça expliquait tout. On s'est dit, on a fait une méga découverte, c'est génial. Bon, on a appris à maîtriser le truc. Et puis on a réalisé qu'elle avait été découverte un siècle plus tôt, cette magnifique découverte. Bon, grandeur et décadence, par un mathématicien, Heaviside. Et ce mathématicien avait même donné un nom à cette découverte, le matériau. Comme il parlait anglais, Heaviside, il y avait les magnets, ce sont les aimants, et il avait intitulé ça « Electret », l'équivalent électrique des aimants. Et donc, c'était un truc qui était connu, qui avait eu zéro application à peu de choses près, parce qu'on utilisait des matériaux organiques, des cires d'abeille, des cires du Brésil. Du point de vue caractérisation, c'était pas génial. Par contre, les polymères étaient arrivés, on vivait une révolution dans le domaine des matériaux, et donc on s'est mis à faire des électrets en polymères, et on a pensé à plein d'applications. Donc vous voyez déjà, s'obstiner, il faut s'obstiner. Quand vous voyez quelque chose qui est bizarre, il ne faut pas dire « c'est bizarre et je laisse tomber ». Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est bizarre. Bien sûr, parfois, vous allez découvrir que c'est bizarre parce que vous avez fait une faute de manipulation, parce que vous avez fait une erreur quelque part. Bon, bah, c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre. La science, c'est rationnel. Vous ne pouvez pas avoir de phénomène surnaturel. Autrement dit, quand vous voyez un phénomène bizarre, soit vous avez fait une erreur dans votre manipulation, soit vous touchez quelque chose de formidable parce que nouveau. Alors évidemment, on a eu envie, maîtrisant les électrets, d'en faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à prendre des brevets. Alors le brevet, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument fabuleux. C'est un instrument qui, dans une société basée sur la compétition, l'antitrust, il ne faut pas qu'il y ait un produit unique, dans la vie de notre système économique, le brevet vous donne un monopole. Alors ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans la compétition, vous fabriquez des poils, bon ben, le prix de votre poil, c'est le prix de la matière, le prix de la fabrication, et en final, vous faites un petit bénéfice, vous la vendez. L'acheteur de Carrefour qui vient vous acheter vos poils, il va vous faire baisser le prix, baisser le prix, baisser le prix, puis il vous dit, si vous ne baissez pas le prix, je l'achète chez votre concurrent. Bon, c'est dur. Vous êtes dans la spirale destructrice de la baisse des prix. Si vous aviez un monopole, vous feriez ce que vous voulez. C'est le rêve. Évidemment, comment concilier une économie basée sur la concurrence avec le fait de donner des monopoles ? Pour faire avancer la connaissance. Si vous avez inventé quelque chose qui a deux qualités, trois qualités, qui est industriel, c'est-à-dire un théorème mathématique, vous ne pouvez pas le breveter, qui est nouveau, il faut que ce soit nouveau, si ça existe déjà, on ne va pas vous donner un monopole, vous ne faites pas avancer la connaissance. Troisièmement, qui est inventif, si c'est évident, on ne va pas vous donner un monopole. Voilà les trois critères pour un brevet. Il y a un quatrième brevet, mais celui-là, un quatrième critère qui est très facile à contourner, c'est ça ne doit pas être contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Si vous inventez un nouvel objet pornographique, il ne faut pas l'intituler objet pornographique, il faut l'intituler objet d'amélioration du bien-être. Donc ce quatrième sujet n'est jamais un sujet. Ça vous fait rire, mais à l'ESPCI, j'ai un étudiant qui est venu me voir avec une idée géniale dans le domaine, je l'ai conseillé. Sur le brevet, j'entends, pas sur l'utilisation de son objet. Et donc, Le brevet, vous voyez, c'est un outil extraordinaire parce qu'il peut vous donner un monopole. Donc on s'est mis à prendre des brevets dans le domaine des électrets. Et on a pensé, la première application nous semblait être dans le domaine des microphones. D'ailleurs, 50% d'entre vous dans leur poche ont des électrets à l'intérieur de leur smartphone ou de leur téléphone. On a essayé de convaincre le plus gros industriel français de l'époque. Il m'a écouté pendant 2 jours, interviewé, tout. Puis il m'a dit, ça a l'air un peu risqué votre truc, on n'y va pas. Bon. J'ai créé ma première start-up. Et comme j'étais avec une ambition, je l'ai intitulé l'électret français. Bon, c'est une marque que vous avez peu entendue, je suis d'accord, parce que ça a été un échec. L'électret français, c'était une entreprise qui avait tout pour réussir. Je connaissais la technologie des électrets, j'avais rencontré un entrepreneur, un vieux monsieur qui avait créé plein de boîtes, qui m'avait dit « Je mets l'argent, vous amenez vos idées. Peut-on rêver mieux, jeune chercheur ?» Et on s'associe 50-50, à égalité. Eh bien, dans un temps record, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire. C'est intéressant, vous voyez. En particulier, l'erreur numéro 1, j'ai voulu tout faire. J'ai oublié ce principe de base, on n'est pas bon dans tout. On a des domaines où on est bon, d'autres sont bons dans d'autres domaines. Combinons nos talents. N'essayons pas d'être l'homme universel qui sait tout. Et donc, je faisais des trucs absurdes. J'aurais pris un mécanicien ou un outilleur. Il aurait résolu des problèmes qui, pour moi, étaient quasiment insurmontables en quelques jours. Et l'affaire aurait décollé. Bon. Donc, l'électret français a échoué. J'ai fait un accord avec un grand groupe japonais. Et au pic, maintenant c'est en décroissance, parce qu'une nouvelle technologie est arrivée, sur un marché mondial d'1 milliard de microélectrets par an, mon partenaire en faisait 500 millions, 40 millions de microphones par mois. C'est le petit objet, quand vous parlez, qui transforme votre son en un signal électrique qui est amplifié. Alors, c'est un marché qui a été en très forte croissance, qui est en décroissance. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est génial, la technologie évolue et une nouvelle technologie est en train d'arriver qui va progressivement éliminer les microphones électrets dans toutes les applications un peu haut de gamme, vous voyez. Dans les smartphones, il n'y a pratiquement plus de micro-électrets, dans les téléphones, il y en a encore, dans les jouets, dans tous les accessoires de ce genre, il y a encore du micro-électret, mais c'est un marché en décroissance. Donc vous voyez, première exemple que je viens de vous citer, entourez-vous d'une équipe. Ne faites pas une aventure seule. Alors, une entreprise, c'est génial, une PME, une petite entreprise. Pourquoi ? Parce que vous voyez les conséquences de ce que vous faites. Vous êtes dans un grand groupe, vous êtes un contributeur parmi 10 000, 20 000, 100 000. Bien sûr, votre rôle est grand. Dans une start-up, votre rôle est majeur. Vous faites une erreur, vous pouvez couler la boîte. Vous prenez une bonne décision, vous pouvez la faire exploser. Et donc, dans le développement de votre entreprise, si vous choisissez ça un jour, entourez-vous de compétences et surtout, soit vous êtes vous celui qui a la connaissance, soit dans l'équipe, il faut quelqu'un qui a la connaissance. Alors, je dis ça parce que parfois, lorsque des investisseurs ou d'autres viennent, ils disent « Bon, le chercheur, il a été très bien jusqu'à maintenant. Maintenant, on va le mettre de côté, on passe aux choses sérieuses. » C'est une erreur. Celui qui a la connaissance, c'est lui la vraie richesse. Et je vais vous donner un exemple. J'avais breveté, parmi les applications des électrets, j'avais breveté des claviers. Alors, les claviers, ça vous semble une évidence aujourd'hui. Il y a des claviers partout, sur vos ordinateurs, partout. À l'époque, on passait de la machine à écrire qui était mécanique. La touche avait 2 fonctions. Quand vous tapiez sur une touche de machine, d'abord, c'était un capteur. Vous choisissiez la lettre ou le symbole. Deuxièmement, c'était un actionneur. Elle tapait sur un ruban de carbone pour imprimer le symbole. Donc il y avait deux fonctions. Quand évidemment les machines électriques sont arrivées avec IBM et Honeywell, puis les ordinateurs, le besoin en clavier a explosé. Or, on ne pouvait pas utiliser les interrupteurs comme il y a pour allumer la lumière, parce qu'ils marchent en 110 ou 220 volts. Chaque fois que vous le commutez, les contacts électriques se nettoient parce qu'il y a un petit arc électrique, alors que dans un ordinateur, dans un clavier, vous êtes en 5 volts, 12 volts, il n'y a pas de décharge électrique. Vous habitez près d'une centrale à charbon, il y a de l'acide sulfurique dans l'air, ça sulfate les contacts. Vous avez ces jolis petits cristaux bleus de sulfate de cuivre qui poussent entre les deux contacts. Ils ont un petit défaut, ils sont isolants. Quand vous fermez le contact, ça ne touche plus. Bon. Donc il y avait un besoin énorme de clavier. Je m'étais dit, le clavier électrique, ça va être génial. On prend des brevets, on trouve un industriel pour les fabriquer. Et ça se passe très bien, l'industriel est content. Un jour, je suis chez lui et il me dit « Oh, je suis très content de la collaboration avec vous, génial, votre clavier. » Puis en riant, il me dit « Ce serait encore mieux s'il n'y avait pas d'électret. » Je lui ai vendu un clavier électret, il me dit « Ce serait mieux s'il n'y a pas de clavier électret. » On rigole tous les deux de la bonne blague. Je rentre dans ma voiture et je conduis pour retourner à l'école. Et puis je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a mis un électret ? On a mis un électret parce qu'on travaille depuis des mois sur les électrets. Maintenant qu'on connaît le besoin des claviers, on pouvait faire la même chose sans électret. J'appelle l'étudiant qui était en thèse avec moi sur le sujet. Je lui dis, mais attendez, pourquoi on a mis un électret ? Ben, il me dit, on a mis un électret, évidemment, il fallait mettre un électret. Ben, je lui dis, non, on a mis un électret parce qu'on travaillait dessus. Je vous fais l'histoire courte, on prend un deuxième brevet sans électret. Et puis ça ne marche pas très bien, il y a des problèmes. Bon. On prend un troisième brevet, ça ne marche pas très bien. Le quatrième brevet, ça marchait super bien. Ce clavier a équipé les premiers IBM PC, donc... Vous n'avez pas connu cette période, peu de gens ont connu cette période, ça a été le début des micro-ordinateurs, avec, vous les voyez peut-être dans les musées maintenant, et donc ça a été un décollage fabuleux. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que vous voyez que si le développement industriel s'était fait sans les chercheurs, en l'occurrence moi, l'industriel aurait fabriqué un magnifique clavier électrique. Il l'aurait vendu. 6 mois plus tard, quelqu'un aurait dit « Mais ils sont débiles. Moi, je fais un clavier sans électret qui va être moins cher, par définition, puisqu'il y a un composant de moins. » Donc, vous voyez l'importance du chercheur. Donc, dans l'équipe, soyez toujours attentifs aux chercheurs. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas non plus. Parfois, le chercheur, il faut se méfier de lui. J'avais dans mon laboratoire Georges Charpak, qui était un inventeur génial et un physicien extraordinaire. Et on travaillait ensemble sur une technologie d'imagerie médicale pour faire des radios à faible dose. Vous savez que chaque fois qu'on prend, on fait une radio, on est un peu irradié. Bon, si on en fait peu, ça va, s'il ne faut pas en faire trop. C'est la raison, par exemple, pour laquelle, pour les femmes, on ne fait pas de mammographie trop jeune, parce qu'on irradierait le sein depuis l'âge jeune, et donc on détecterait un jour des cancers, mais on les aurait induits. Donc on ne le fait qu'en cas de doute. Donc il y a de l'intérêt à faire de la radiographie faible dose. On travaillait avec Georges là-dessus et on avait trouvé un truc qui avait l'air super bien. C'était l'utilisation des chambres à fil qu'il avait fait au CERN pour les détecteurs nucléaires. On prend des brevets, on crée une petite boîte, on cherchait désespérément de l'argent. Georges était le chercheur comme on peut rêver. Il était tout le temps avec des idées. Un jour, je suis à mon bureau, un livreur arrive, il dit « j'ai un colis pour vous ». On dit « ah bon, c'est quoi ?» La société s'appelait Biospace à l'époque. On l'a introduite en bourse il y a 2-3 ans sous le nom EOS Imaging. Il nous livre un colis pour Biospace. Alors, je dis « c'est quoi ce colis ?» J'ouvre l'enveloppe, c'était ce qu'on appelait une chambre à fil, et je vois la facture, 800 000 francs. 800 000 francs à l'époque, c'était colossal. C'était 800 000 francs, ça fait 150 000 euros. Somme énorme, qu'on n'avait pas tout à fait 150 000. J'appelle Georges qui était au troisième, je lui dis « tu peux venir me voir ?» Il descend, il me dit « qu'est-ce qu'il y a, t'as l'air énervé ?» Je lui dis « je suis pas énervé, qui a commandé cet appareil ?» Il me dit « c'est moi ». Je lui dis « mais on va le payer avec quoi ?»« Ah bon, il y a un problème là-dessus ?» Je lui dis « oui, quand tu commandes un truc, il faut le payer en général ». Il avait vécu au CERN avant. Alors au CERN, en dessous de 10 millions, ça compte même pas. Dans une école, on n'a pas les mêmes. Et dans une start-up, encore moins. On a mis nos économies. Ah, il me dit, ouais, bon, il repart. 5 minutes après, il m'appelle du troisième et il me dit, Jacques, j'ai vu que tu étais énervé. J'ai appelé le fournisseur. Tu sais quoi? Il nous le fait à 400 000. Ah, j'ai dit, tu veux dire, t'es passé de 800 000 à 400 000, là? Il me dit, oui. J'ai dit, tu peux revenir dans mon bureau? Il revient dans mon bureau. Je lui dis, tu vois, sur mon bureau, il y a 3 téléphones. Je te laisse mon bureau. Utilise les 3 téléphones tant que tu veux. Si en 5 minutes dans ton bureau, avec un téléphone, t'es passé de 800 à 400, je te laisse les 3 dans mon bureau. Je vous fais l'histoire courte. Vous savez combien on l'a payé, l'appareil? 0. Ils nous l'ont donné. Vous savez combien de fois on l'a utilisé? 0. On l'a payé le juste prix. Donc vous voyez, parfois le chercheur, il est un peu dangereux. Alors on cherchait de l'argent, pour EOS Imaging. Donc on avait vu 10 investisseurs. Et à chaque coup, ils me plantaient l'affaire au dernier moment. Et donc je lui dis, Georges, ne viens plus avec moi. J'ai un rendez-vous dans une banque du boulevard Haussmann. Ils ont l'air super accrochés. Ils sont prêts à investir chez nous. Tu viens pas? Il me dit, d'accord, je viens pas, je dis toujours des bêtises là, dans ce domaine. Je lui dis, c'est pas des bêtises, mais ça n'aide pas. Le jour du rendez-vous, je le vois qu'il traîne devant mon bureau, je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, rien. Je lui dis, je sais très bien, tu veux venir. Il me dit, laisse-moi venir, je dirai rien. Je sais que je fais une erreur, mais viens. On va dans cette banque. Ambiance du tonnerre, la matinée se passe merveilleusement bien. Ils sont emballés, ils vont investir chez nous, ils nous invitent à déjeuner dans la salle à manger de direction, au dernier étage, tout en boiserie ancienne, chêne et tout, maître d'hôtel. Délicieuse cuisine, délicieux vin. Et je vois Georges qui se détend petit à petit. Donc je mange de plus en plus stressé. Parce que je vois que l'ambiance, bon repas, bon vin, bon. Et à un moment, il est tellement heureux, il leur dit, je suis tellement heureux, on va travailler ensemble, j'ai plein d'idées, on va faire des choses géniales. D'ailleurs, tout ce que vous a dit Jacques ce matin, oubliez, j'ai beaucoup mieux. Bon, inutile de vous dire qu'ils n'ont pas investi chez nous. Il m'a simplement dit... Quand vous serez décidé, ben vous nous direz ce que vous voulez faire. Donc vous voyez, le chercheur, il faut le garder dans la boucle, il a la connaissance, il faut le contrôler quand c'est possible. Autre caractéristique d'une start-up, la capacité de prendre des décisions. Ça a l'air débile ce que je vous dis, mais dans un grand groupe, prendre des décisions, c'est extrêmement difficile. Heureusement, sinon les startups n'auraient aucune chance. Pourquoi? Parce que le grand groupe, il a tout, il sait fabriquer les produits, il sait les vendre, il a les réseaux. Vous vous démarrez avec peu d'argent, avec rien. Sauf que vous avez la capacité de prendre des décisions. Alors, ces décisions, parfois elles sont mauvaises. Bon, j'avais créé une boîte, on s'était dit, c'était l'époque où la téléphonie mobile arrivait. Donc tout le monde pensait mobile. Aujourd'hui, vous pensez smartphone, tablette, mais à un moment, on pensait, parce que vous ne réalisez pas que le téléphone portable, c'était une petite valise. On tenait la valise, alors les hommes d'affaires, les gens qui voulaient montrer comme ils étaient importants, ils avaient leur petite valise, et il y avait un téléphone dedans. Bon. C'était Radiocom 2000, ça s'appelait. Et puis, les téléphones modernes sont arrivés, tels que vous les connaissez, des petits objets... Et évidemment, tout le monde était emballé par ça. Et on s'était dit avec un de mes chercheurs, mais c'est pas possible. Plus personne ne pense au fil du téléphone. Toutes les maisons, tous les appartements ont des fils téléphoniques qui arrivent jusqu'à chez eux. Un siècle d'investissement n'est pas effacé comme ça. On s'est dit, on va faire des objets qu'on branche sur les fils du téléphone. Bon, on a commencé avec ce qu'on appelait des téléphones sans fil. C'était pas des mobiles. Ça évitait le cordon entre le combiné et la base. Bon. Mais c'était un marché qui devenait très concurrentiel. On a compris que ce serait pas ça le truc. Et on s'est dit, le monde extérieur, c'est Internet qui arrive. Le monde de la maison, ça va être la radio. On va réaliser une passerelle entre la maison et l'extérieur qui va combiner un modem ADSL, un routeur, un firewall. On va faire un objet compact. Le client, il aura juste à le brancher et pas à se construire un système comme on construisait à l'époque les chaînes haute fidélité. Je prends la platine chez machin, le préamplificateur chez machin, l'ampli chez machin, les haut-parleurs chez l'autre. Des gens le faisaient, et puis des chaînes intégrées sont apparues. On s'est dit, on va faire la même chose avec les passerelles. Et on s'était dit, on va prendre une technologie radio naissante qui s'appelait Bluetooth, qui est plus naissante, mais qui à l'époque était... On trouvait que c'était un protocole génial. On s'est dit, on va utiliser Bluetooth pour la maison, ADSL vers Internet. On a réalisé la première passerelle et on avait beaucoup de mal à la vendre. Et tous nos ingénieurs commerciaux disaient, chaque fois qu'ils rencontraient un client potentiel, Wi-Fi, qui était poussé par les Américains, c'est nul, c'est un standard du passé. Bluetooth, c'est un standard du futur. On vendait rien. À un moment, on s'est dit, il y a un problème, et puis ça m'a frappé. Je me suis dit, il n'y a pas encore de terminaux Bluetooth en grand nombre, donc qui va se connecter à Bluetooth s'il n'y a pas de terminaux Bluetooth? Et deuxièmement, une petite start-up française va pas arrêter le rouleau compresseur américain de l'IEEE, qui est l'institution américaine qui fixe les normes dans le domaine de l'électronique. Je me suis dit, c'est impossible. Avec mon partenaire, qui était mon ancien étudiant, on a dit, on va basculer. Alors, il fallait dire à nos ingénieurs, qui toute la journée disaient aux clients, Wi-Fi, c'est nul, on va faire du Wi-Fi. Donc on convoque tout le personnel, une vingtaine de personnes à l'époque, et je leur explique, le client aujourd'hui veut Wi-Fi, demain il y aura Bluetooth, mais aujourd'hui il veut Wi-Fi. Donc si on n'est pas là demain, si on est mort, on ne fera jamais de Bluetooth. Faisons Wi-Fi, et pour vous montrer que, pour vous c'est dur, mais pour nous aussi, notre société s'appelait Inventel The Bluetooth Company. Je leur dis, pour vous montrer, vous allez avoir un chemin à faire, nous aussi. Eh bien, on va changer le nom de la société, ça va être Inventel, The Wireless Company, la compagnie du sans-fil. Ça pourrait être Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, n'importe quoi. Bon, on a créé la Livebox, puis la British Telecom Box, la Polish Box, Pays-Bas Box, et on est devenu le numéro un de la box en Europe. Donc vous voyez, une boîte qui a démarré à 3 personnes... elle est devenue le leader des box. Donc, chaque fois que vous avez l'idée, j'y arriverai pas, oubliez cette idée. Quels sont les ingrédients pour que j'y arrive? Alors peut-être vous allez vous planter. Et ça m'est arrivé, je vous ai donné l'exemple de l'électrée français, ça a été un plantage. Ça a été un plantage par erreur, parce que j'ai accumulé les erreurs. J'ai un autre plantage qui, lui, n'est pas une erreur, et je ne le regrette pas, c'était trop tôt. On est arrivé à un moment où le marché n'était pas mûr. On a créé le premier livre électronique. Ça s'appelait Cibook, et le livre s'appelait Cital. Cital et Cibook, c'était deux noms. La FNAC ne savait pas où le mettre. Est-ce qu'elle le mettait au rayon des ordinateurs, mais personne n'allait au rayon des ordinateurs acheter un livre? Ou est-ce qu'elle le mettait au rayon des livres? Personne n'allait au rayon des livres acheter un ordinateur. On n'y arrivait pas. La boîte n'a pas marché. Elle a été reprise par un de nos ingénieurs et elle a redécollé. Donc, ce n'est pas un échec total. Elle a redécollé sous le nom de Bookin. C'est le seul fabricant, disons, de livres électroniques à part Amazon, Sony et les grands. Bon. Mais c'est un tout petit succès, ça n'a rien à voir. Donc vous voyez, savoir prendre des décisions, accepter de temps en temps l'échec. Il ne faut pas avoir que des échecs, évidemment. Si on est avec des échecs, il y a un malaise très fort. S'entourer. Alors, vous allez avoir à lever des fonds à un moment. Si vous faites, vous créez une boîte, à un moment, pour vous développer, il faut lever des fonds. Sauf si vous avez une fortune personnelle, mais dans la majorité des cas, il faut lever des fonds. Il faut donc convaincre des investisseurs qui font une super bonne affaire en mettant de l'argent chez vous. Alors, vous réalisez que vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'immeuble, vous n'avez pas de machine, vous n'avez aucun actif qui peut être évalué de point de vue valeur. Pourquoi un investisseur va aller chez vous ? D'abord parce que vous avez une bonne tête. Ils se sentent bien avec vous. Bon, ben dans la vie, ça arrive. Il y a des gens avec qui on se sent bien, d'autres avec qui on ne se sent pas bien. Ben, l'investisseur, s'il se sent bien avec vous, peut-être il va regarder votre projet en détail. Deuxièmement, il faut que vous le fassiez rêver. Il faut que vous lui montriez que votre projet, c'est génial. Il ne faut pas lui dire « j'améliore un petit truc, voilà, aujourd'hui on fait un truc, je l'améliore un peu, bon, d'accord. » Il va dire « ça, c'est pas mon créneau, bon. Pourquoi vous réussiriez alors que tous ceux qui le font pas ?» Vous lui dites « j'ai une innovation de rupture, un concept qui n'existait pas. » Et donc, il faut le faire rêver. Vous devez construire ce qu'ils appellent un « business plan ». Vous apprendrez dans votre scolarité un petit peu ce que c'est qu'un business plan. Vous affolez pas par le nom business plan. C'est exactement un compte recettes-dépenses un peu amélioré. Autrement dit, vous ne laissez pas abuser par les grands discours, faut étudier votre business plan. Non. Qu'est-ce que je vais avoir comme dépense, qu'est-ce que je vais avoir comme recette et combien il me reste en caisse à la fin. Voilà. Quand vous passez la barre du zéro, il y a un problème. Tant que vous êtes positif, ça va. Quand vous devenez négatif, ça va. Donc, il faut montrer à votre investisseur qui fait un super truc en investissant sur vous. Et vous voyez l'intérêt d'avoir pris des brevets. Pourquoi ? Je vous ai dit, le brevet, il vous permet d'avoir un monopole. Ça, c'est génial. Ça veut dire que vous vendez sans vous occuper des prix. Votre prix de vente n'est pas conditionné par le concurrent. Il est conditionné par le fait que le client, il veut votre produit. Et il est prêt à le payer plus. Donc, c'est génial. En termes de marge, ça n'a plus rien à voir. Donc, le brevet vous donne ce monopole. Quand vous allez négocier avec un investisseur, l'investisseur se dit « Ah, cette équipe, ils sont géniaux, ils ont un super nouveau produit, ça va faire un malheur. » Mais qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit « Soit ils se plantent, bon ben ils se plantent, soit ils ont du succès. » À ce moment, tous ceux qui pourraient fabriquer ce produit vont en acheter, ils vont le copier, ils vont le refaire. Et donc, l'équipe que je soutiens va se trouver en concurrence avec des gens qui vont faire le même produit moins cher puisqu'ils n'auront pas eu les frais de recherche. Et vous voyez qu'il y aura une espèce d'injustice majeure où le créateur est pénalisé dans la compétition. C'est donc pour ça qu'il y a le brevet. Mais l'investisseur, lui, à défaut d'avoir des immeubles, des machines ou autres qui vont garantir son investissement, au moins il a le brevet. Et vous voyez que dans une levée de fonds, un ou des brevets, c'est extrêmement utile. Donc, voilà quelques lignes, si vous voulez, de quels sont les moyens de créer une start-up. C'est possible, ne dites jamais « j'y arriverai pas ». C'est possible, soyez prêt à prendre des risques. Alors, maintenant que vous allez, à l'issue de ces 3-4 ans, voire plus si vous faites un doctorat, qui viennent devant vous, quelles sont les recommandations, je dirais, que je peux vous faire? Première recommandation, ce que vous faites, faites-le parce que vous l'aimez. Votre vie, orientez-la vers ce qui vous passionne. Ne faites jamais une décision parce que vous êtes mieux payé qu'ailleurs. Choisissez une voie parce que vous l'aimez, parce qu'elle vous plaît. Ce qui vous plaît, vous le ferez bien. Ce que vous faites par obligation, et gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas que ce soit une obligation, justement, parce que ça veut dire que chaque jour, vous allez aller travailler sur un truc qui ne vous plaît pas vraiment. Vous le faites uniquement pour des raisons financières. C'est un très mauvais choix. Ne faites jamais ce choix. Là où vous êtes, ce que vous aimez, c'est là que vous serez bon. Soyez ouvert à travailler en équipe avec les autres. Deuxième conseil. Acceptez de prendre des risques, même si votre entourage parfois vous dit ne le faites pas. Bon, il y a des choses, votre entourage vous dit ne le faites pas, ne le faites pas peut-être. Mais acceptez de prendre des risques. Acceptez de temps en temps l'échec. Il n'y a pas d'autre solution. Eh bien, quand vous faites tout ça, d'abord, vous avez une vie super marrante, parce que vous faites des trucs qui vous amusent, qui vous passionnent, vous n'êtes pas à vous ennuyer, et vous avez de fortes chances de réussir. Voilà mes souhaits les plus sincères pour votre vie future. Merci.